Là, c'est parti. Vous pouvez peut-être commencer par vous présenter un petit peu dans les grandes lignes, qui vous êtes, où habitez-vous, ce que vous faites.
Donc, je m'appelle. J'habite à Paris, dans le 11e. En fait, je suis pas vraiment décorateur, comme j'ai marqué. Je construis des décors de cinéma et de décors d'émissions télévisées, des événements. Et j'ai une deuxième casquette, j'enseigne un peu la géométrie appliquée.
C'est deux casquettes très différentes.
Non, elles sont totalement complémentaires,
oui,
parce que dans le sens où on, quand on fabrique des objets surdimensionnés ou des décors un peu compliqués, il faut savoir tracer, donc développer les formes, projeter exactement, et donc c'est un petit peu ce que j'enseigne de manière plus pratique.
Donc on peut dire qu'il y a un peu côté plus théorique et puis côté pratique, enfin deux choses.
Oui, mais ça se rejoint. Là, ça se rejoint parce qu'on travaille sur de la matière, donc la théorie ne passe pas toute seule. Il faut vraiment appliquer, intervenir les autres, les sens, la vision, même le toucher parfois, la compréhension de l'espace, l'expression des volumes. Ça ne fait pas naturellement en théorie. Surtout en France, où l'enseignement des volumes n'est pas du tout pratiqué, quasiment franc.
C'est-à-dire hein.
C'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons, par exemple, on apprend, on fabrique des volumes, des formes, on fait faire des cubes, certainement à partir de papier, et on apprend, on va assez loin dans le développement des volumes géométriques.
D'accord.
Alors qu'en France, ça reste
à plat, vous voulez dire,
je crois que c'est en seconde ou en première, on fait de la géométrie dans l'espace, mais ça reste des matrices, ça reste totalement théorique.
Je suis très floue de ces cours-là.
Oui, ça ne m'étonne pas.
Mais je n'ai pas de souvenir d'avoir fait des choses plus en 3D, en tout cas.
Non, mais bon, peut-être en Angleterre, peut-être que c'est terminé aussi, mais en fait, l'appréhension des volumes de l'espace est assez délicat, parce que c'est quand même une forme, ça embosse... Dans l'esprit, ou dans l'intelligence, ça doit se fabriquer. Et il y a certains étudiants qui ont du mal à voir en trois dimensions, alors qu'ils utilisent un ordinateur, ils fabriquent des objets en trois dimensions, et puis ils sont tout à fait étonnés de voir ce qu'ils ont dessiné.
D'accord. Oui, passage.
Absolument. Il y a des gens qui ne sont pas capables de. Qui ont énormément de mal à anticiper. C'est-à-dire qu'ils vont faire par tâtonnement, ils vont essayer de développer, alors que s'ils avaient un petit peu de méthode, un petit peu de savoir, ils iraient beaucoup plus vite. Ils pourraient même anticiper sur d'autres modifications, d'autres formes.
Et alors, quels étudiants vous avez?
J'ai des étudiants de l'école des arts décoratifs, l'ENSAD. Donc, je les ai en première année, parce que c'est des basiques.
D'accord.
Et après, donc on a une bonne moitié qui a besoin réellement de la géométrie dans l'espace, puisqu'après ils vont faire du design, de l'archi d'intérieur, principalement du vêtement, même pour le vêtement, c'est très important d'avoir le sens des volumes.
Oui, bien sûr. Mais l'enseignement, c'est venu après ou vous avez
Quel était
votre parcours un petit peu?
Moi, j'ai appris la mécanique bureau d'études. Donc, j'étais censé dessiner des pièces mécaniques, des ensembles mécaniques, des machines. Et puis, j'ai vendu des motos anglaises. Voilà, tout à fait. Donc, et puis, quelques années après, j'ai fait un stage de menuiserie un peu expérimental d'ailleurs. Donc, j'ai fait des meubles parce que je voulais changer, il fallait changer. Et parce qu'en fait, j'avais l'intention...
Mais c'était pas ce besoin de travailler aussi un peu avec les mains quand même
Non, c'était besoin de concevoir. Et concevoir des produits mécaniques, très difficile à réaliser. Alors que concevoir des objets en bois, c'était quand même plus facilement réalisable. C'est pour ça que j'ai fait des meubles, après j'ai fait un petit stage. En auditeur libre à l'ENSAD, donc c'est un petit raccord. Et en fait, puis un jour, on m'a demandé, c'est du réseau d'amis. Il y en a qui m'a demandé, on a besoin de quelqu'un, donc c'est à la fois un atelier et à la fois des cours.
D'accord.
On a besoin de quelqu'un, ça t'intéresse. Oui, bien sûr, ça m'intéresse, voyons voir.
Donc ça s'est fait un peu comme ça.
Absolument, oui. Et donc ça fait 5-6 ans quoi, que je fais ça.
Ouais.
Sinon, je suis, autrement, je suis intermittent de spectacle.
D'accord, oui. Alors, si on reste sur le côté enseignant, ça vous a plu, là, ce rôle de communiquer, enseigner?
Oui, oui, ça c'est intéressant, ouais. Oui, tout à fait.
Pas donné à tout le monde non plus, hein, faut avoir un peu la fibre pédagogique.
Oui, premièrement, oui, mais là, c'est à la fois pédagogique, mais les étudiants travaillent de leurs mains, donc ils n'ont pas la même attention, la même forme d'attention,
ouais.
Ils sont obligés de s'impliquer beaucoup plus.
Ouais,
on les fait travailler quasiment le corps.
Oui, oui, oui.
Ils font un peu non pas de sculpture, mais ils taillent des morceaux de bois de manière géométrique, avec à l'aide d'outils tranchants. Et donc, on s'aperçoit qu'il faut taper pour enlever de la matière, ça résiste. Il faut concevoir ce qu'on envoie, gérer son geste. Ça fait appel à... Donc, il faut avoir une bonne posture, une bonne attention, une bonne intention pour réaliser des formes de base géométrique.
D'accord.
Alors, c'est pas de la sculpture, ou c'est pas grave, j'estime...
Oui, là, il s'agit de...
Oui, tout à fait, il y a une rigueur, à laquelle ils ne sont absolument pas habitués. Donc, ça, c'est assez intéressant, Non, oui, ça se passe bien. Ils sont un peu interloqués.
Ça change un peu.
Et le travail manuel, c'est quand même... La culture du travail manuel, c'est perdu. Il n'y en a plus un seul qui a un grand-père menuisier ou qui a vu travailler son père. Ils ne sont pas issus de milieux culturels plutôt élevés. Et donc...
Il n'y a pas de manuel.
Ils
n'ont pas peur un petit peu aussi, souvent, c'est ça.
Si, un petit peu, mais les garçons ne le disent pas parce qu'ils sont censés savoir être les maîtres de la matière. Et les filles, elles sont très intéressées parce qu'elles savent que c'est le moment.
C'est l'occasion.
Donc, aucun se plaint.
C'est déjà bien. Vous avez un public quand même assez indulgent aussi, c'est bien.
En première année, ils sont ouverts, ils sont très contents d'être rentrés dans l'école. Ils ont passé un concours.
Comment ça se passe cette école-là?
C'est un concours, ils sont quasiment 1800, ensuite il y a une présélection, ils sont 300.
Et à l'arrivée, c'est en première année?
80, puis après en deuxième, troisième année, il y en a qui l'école recrute un petit peu aussi. Une bonne partie. C'est peut-être la moitié au total des étudiants.
Oui, donc c'est quand même un privilège d'être arrivé.
Et donc on les plonge.
Donc toutes les raisons du monde ne pas se plaindre.
Ouais.
D'accord. Alors l'autre côté, décorateur quand même.
J'appelle ça décorateur parce que c'est pour simplifier, mais je n'ai pas vraiment la fibre artistique, décorateur, créatrice. Je propose pour les autres, je verrai bien ça.
D'accord, ok.
En fait, ce qui m'intéresse, c'est de construire, de réaliser. Le décorateur nous propose des plans.
D'accord, et puis après.
Et on lui dit, on fait un devis, et on
là,
propose
vous avez
des
votre
solutions.
Propre entreprise ou comment ça fonctionne?
Non, on est des salariés. Soit dans les ateliers, soit des productions de cinéma, soit des productions d'événements. On est payé à la journée, à la semaine, mais même pas au mois. Oui. Il n'y a rien de régulier. Donc c'est assez intéressant aussi.
Parce que des choses assez variées.
C'est varié. Parfois des répétitifs, il s'agit de fabriquer des cuisines pour les publicités, où on va voir... des cuisines qui vont absolument pas être vues. Il y a besoin d'un espace. Ça c'est pas passionnant, mais parfois il y a des décors magnifiques, assez compliqués. Donc là effectivement.
Donc vous disiez cinéma, pas théâtre, non, c'est pas.
Théâtre non, c'est une autre famille. J'ai fait un ou deux décors de théâtre, mais en fait c'est d'autres ateliers, d'autres façons de travailler. Pas les mêmes, comme les stands pour les expositions, c'est une autre famille.
D'accord, chacun a
sa niche
comme ça.
Tout à fait.
Et plateau de télé
Plateau de télé, c'est toujours pareil, un décorateur qui a signé, qui a accepté, et puis il vient voir l'atelier, et il fait faire des devis, c'est du réseau quand même pas mal, et dans ce cas-là, il arrive avec une maquette, des plans, il y en a mais il y a toujours un aller-retour pour travailler, quel matériau on va utiliser, comment ça va tenir, parce qu'il y a parfois des décorateurs qui,
oui, j'imagine qu'il doit y avoir des idées absolument faramineuses.
Oui, tout à fait. Et ça c'est possible, ça c'est moins possible. Ouais. Si on pourrait le modifier comme ça, ça pourrait tenir. Est-ce qu'on peut rajouter un peu d'épaisseur ici, changer le matériau là. Évidemment, il y a un échange. Sinon, le décorateur, il y a tout un tas de ce qu'il a dessiné deviennent possibles, et nous on a intérêt à aller à simplifier de manière à faut respecter l'esprit, mais donc les décorateurs qui sont incapables de comprendre qu'on puisse modifier quoi que ce soit, il y en a d'autres qui disent allez-y, et puis je donne un petit coup de gouvernail si vous échappez, donc ça c'est très agréable.
Alors vous disiez, donc vous êtes intermittent du spectacle, vous voulez un petit peu commenter tous ces événements autour de ce statut ces dernières années.
C'est un statut particulier parce que...
Toutes les manifestations et tout ce que ça a engendré.
C'est des questions journalistiques. Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis... traditionnellement, les intermittents du spectacle, c'était les gens du cinéma. Après, il y a eu les publicités. Donc, encore une fois, le théâtre n'était pas vraiment concerné. Parce que la plupart des théâtres avaient des gens pratiquement à l'année. Donc, puis il y avait des gros théâtres, il y avait des permanents. Et après, il y a eu des publicités dans les années 80, ça a explosé. Et après, il y a eu des grands événements du style le bicentenaire de la Révolution française. Et puis il y a eu les Jeux Olympiques aussi, d'hiver, il y a eu des grandes manifestations. Et puis en fait, il y a eu de plus en plus d'intermittents, il y en a eu trois fois plus en 10 ans. Ça a explosé, donc il y a tout un volant. Puis après, il y a eu aussi tous les spectacles vivants qui ont explosé, le festival. Donc il y a eu énormément de personnes qui avaient obtenu ce statut parce qu'il faut travailler un certain nombre d'heures. Et après, effectivement, on bénéficie du chômage. Donc c'est quand même assez intéressant, ça permet une certaine liberté de création. Et ça permet de refuser du travail qui n'est pas au tarif ou qui n'est pas intéressant. Donc ça, c'est vrai que ça libère à la fois la créativité et ça libère les soucis matériels. Donc, évidemment, la caisse
s'est
vidée rapidement, bien que ce soit une caisse de solidarité qui soit reliée à l'ensemble. Et comme la caisse chômage générale, pareil, était lourdement grevée par les millions de chômeurs, on a pointé sur les intermittents, parce qu'effectivement, ils sont fondamentalement déficitaires, parce qu'il suffit de bosser même 3 mois. Donc, on cotise, il y a très peu de permanents, en fait. Donc, si on regarde uniquement les intermittents du spectacle,
c'est fondamentalement déficitaire. Ce système a été surutilisé, peut-être aussi, non ?
Bien entendu, et par les patrons, et par les techniciens, les ouvriers, j'en connais qui dès qu'ils ont de quoi renouveler, arrêtent tout, de moins en moins choisir, on maîtrise de moins en moins, parce que là c'est de plus en plus difficile, mais arrêtent tout et partent faire les chantiers, donc ça c'est quand même un peu exagéré, et des entreprises pareil, qui auraient quasiment un volant permanent de travail, si au lieu de perdre 3 mois de sorte de chômage technique, vous avez du mal à remplir n'ayant pas de commande pendant les 3 mois, ils préfèrent avoir un roulement
Alors on en est où aujourd'hui? On a modifié un petit peu tout ça?
Non, ils sont en train de se resserrer, c'est-à-dire que d'une part, il y a deux choses, il y a d'une part les ascédiques apparemment qui veulent baisser. Il y a eu une réforme mais qui a rien changé parce qu'en fait ce sont principalement les syndicats qui arrivent à discuter avec les, parce que c'est paritaire, la gestion des syndicats c'est paritaire, c'est-à-dire que il y a les représentants des travailleurs, les syndicats, et les représentants des patrons. Mais les représentants des patrons sont nettement plus représentés, c'est-à-dire qu'ils sont pratiquement tous syndiqués. Les patrons dans leur syndicat patronaux, alors que les ouvriers sont à 5-10%, c'est très très peu en France. Et d'autre part, les syndicats ont une vision assez, non pas rétrograde, mais assez corporatiste aussi, et ils imaginent qu'ils ne savent pas du tout ce que ça représente de travailler de manière intermittente. Mmh. Pour eux, ils ont des raisonnements de gens en poste, c'est-à-dire à l'année. Et donc, ce qui fait qu'il y a eu des négociations il y a 2-3 ans, et en fin de compte,
ça s'était calmé.
En fin de compte, ce qu'ils ont fait, ils n'ont aucune solidarité réelle. Ce qui s'est passé, c'est que les plus faibles ont été éjectés. C'est-à-dire tous les saltimbanques, les danseurs, ceux qui avaient du mal, qui étaient cafés sur des petits tarifs, ceux-là ont été éjectés. Deuxièmement, il y a un nouveau système qui fait que les nouveaux entrants sont pénalisés. Ils mettent 3-4 années à obtenir un taux équivalent aux autres. Donc, c'est tous les gens réguliers.
Ceux qui bénéficient, c'est ceux qui ont moins besoin.
Oui, tout à fait. Donc, ils ont réussi à se protéger de cette manière-là. Donc, ça, nous, alors qu'on était prêts, effectivement, à avoir notre taux baissé, par exemple, pour une meilleure solidarité, en fait, le taux a légèrement augmenté. Alors, on était tous été surpris, on n'avait pas allé se plaindre. Mais en fait, c'est le résultat de négociations. Et en revanche, il y a peut-être un quart des intermittents, il y a deux, trois qui ont été dégagés. Ou d'autres qui ne peuvent pas rentrer, alors qu'ils pourraient faire facilement une
réalité.
Donc c'est un peu dommage. Et deuxièmement, actuellement, dans le cinéma et la télévision, les accords syndicaux, les accords patronaux, les accords de branche sur les salaires sont remis en question. Depuis 2 ans, les patrons disent non, on ne veut plus signer. Donc ils sont en train de proposer tendu, des tarifs. Des tarifs 20 à 30% en dessous en moyenne.
Oui.
Et voilà.
Oui.
Et voilà. Donc c'est un peu bloqué les négociations. Là, théoriquement, la semaine prochaine, il y a 3 jours de grève dans les longs métrages. C'est énorme. Parce que ça, il y en a eu un, il y en a eu deux, il y en a eu trois. Et c'est assez bien suivi. À chaque fois dans les films, les travailleurs. Bon, on se met en grève, donc le directeur de production dit mais pas du tout, ou le producteur dit pas du tout, moi je suis avec vous, je respecte les tarifs, donc la plupart du temps c'est encore à peu près respecté, mais donc je refais grève. Et donc la réponse c'est vous êtes affilié à un syndicat et votre syndicat justement n'est pas d'accord, donc allez vous plaindre à votre syndicat qu'il n'est pas représentatif, vous faites un débat en fait. Et parce que c'est...
Donc les problèmes sont loin d'être réglés, c'est même...
Non, c'est loin d'être réglé, Donc voilà, donc voilà, nous en sommes.
Et vous avez un peu de statut?
Moi j'ai un peu de statut, effectivement, cela dit, c'est aussi précaire aux arts déco, parce que aux arts décoratifs, je suis vacataire, donc je fais des vacations qui sont renouvelées tous les ans ou pas, selon les années, selon la demande, ça varie du simple au double, et les quasi-permanents, nous on est qualifiés, parce que ça fait quand même 6 ans que j'y suis, je suis qualifié de vacataire permanent.
Ça, il n'y a que les Français qui peuvent faire des choses.
Exactement. Après, le statut au-dessus, c'est de tous les profs qui sont en poste, de fait, c'est des contrats de 3 ans. C'est des contrats, ils sont contractuels.
D'accord.
Et il y a 2 ou 3 postes ministériels, dépendants du ministère, mais ils sont en voie de disparition. De toute façon, l'école a obtenu l'autonomie, enfin une autonomie budgétaire. Donc, elle n'embauche pas des fonctionnaires, elle n'embauche pas des contrats à plein temps, sauf pour le personnel administratif, évidemment. Et donc, l'école se fait depuis 15 ans, 20 ans, se fait manger par le personnel administratif qui n'en finit pas de grossir,
qui
s'auto-gère de plus en plus, et dont le rêve, chaque fois qu'il se passe quelque chose, on ferme l'école. Donc le rêve de tous ces fonctionnaires, moi j'en rajoute, mais c'est...
Oui, ça m'a l'air
la conséquence de leurs actes, si on interprète leurs actes, c'est-à-dire qu'ils préféreraient qu'il n'y ait pas d'élèves.
Oui, c'est ça.
Au niveau de la sécurité, c'est quand même plus calme, il ne va rien se passer, ils n'ont pas d'aller. Les enseignants...
On les tolère.
Ils sont tolérés, oui. Donc, chaque fois qu'il manque trois gardiens, hop, l'école est fermée, comme ça, alors que c'est un outil merveilleux, que ça coûte une fortune, et que tout l'été, c'est fermé, on ne peut pas rentrer... C'est absolument incroyable.
Oui.
Voilà.
Mais je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on a beaucoup parlé.